Bienvenue, chers amis à l'écoute, pour un nouveau passage de la vie de Saint François. Délivré de tout doute, il partit léger avec deux frères, Ange et Masséo. Ils ne pouvaient le suivre, il courait en avant, dans son fougueux désir de prêcher. Il chanta, sentant tout à coup si bien la beauté de la vie. Les nuages, l'herbe, les bêtes, les hommes, la terre, le soleil, les étoiles, tout cela est sorti des mains de Dieu comme une richesse débordante. Tout est pénétré de son esprit. Il est partout, nous nous mouvons en lui. Frère, frère, cria-t-il en ouvrant les bras vers tout ce qu'il voyait et ne voyait pas. Nous sommes tous frères, servons notre Père. Ils arrivèrent ainsi sur la route de Bévagne, dans la vallée. Qu'est-ce qui se passait là, autour de ces arbres solitaires? 1000 oiseaux divers, et puis des milliers encore, petits et grands, se posaient, sautaient, volaient. À pleine brassée, à pleine grappe, en essaim, jeté dans l'air comme du blé, et des gazouillis, piaillements, tirelis, trilles et roulades, le ciel en vibrait. À mesure que François s'approchait, les oiseaux chantaient et sifflaient plus fort, semblaient se multiplier, fourmiller dans les arbres, sur l'herbe et dans les airs. Les deux frères qui débouchaient là-bas joignirent les mains, et quand ils virent que tout à coup, les oiseaux se mettaient à voler autour de sa tête, ils se dirent « C'est en son honneur !» Et ils s'arrêtèrent à quelque distance par respect. François était surpris de voir tant d'oiseaux ensemble. Oiseaux connus tels que le héron, le rossignol, les tourneaux, le roitelet, le corbeau, le rouge-gorge et l'alouette, son ami, et le pigeon et le moineau, mais aussi des inconnus dont certains étaient si beaux qu'on aurait pu leur trouver un nom. Il y en avait de roses et de bleus, de mouchetés, d'aucuns dont le plumage semblait d'écaille, d'autres aux reflets dorés, d'autres encore aux reflets rouges et verts. Il y en avait comme des aurores, comme des coquillages de nacre, comme du brocart, comme des flammes, comme de la soie, comme des soupirs d'or, comme de neige et de fils d'argent. Étranges et beaux de forme et de ligne, avec des collerettes et des capuchons et des huppes, bouclés, frisés, avec des queues comme des ciels de soie, ou fines comme des fleurs de gel sur les carreaux. Un rêve de couleurs et de teintes, et là-dessus, le soleil qui faisait tout étinceler et rayonner. Chaque oiseau avait son bruit, son cri et son chant à lui, et tous voletaient et battaient des ailes autour de François, qui frémissait et tremblait de bonheur. « Ah, non pour moi, pensa-t-il, mais pour l'amour de Dieu. » Et son cœur remua, et sa langue. Il leva les mains, il voulait dire quelques mots aux oiseaux. Et soudain, ces milliers d'oiseaux furent immobiles et muets, et se posèrent en cercle autour de lui. Les petits se faufilaient sous les grands, jusqu'au premier rang. Les arbres en étaient chargés, on ne voyait plus une feuille. Chaque branche était comme emmitouflée dans les soies, les duvets, les escarboucles les plus splendides. Quelques petits oiseaux vinrent se poser sur ses épaules, sur ses bras étendus. « Écoutez, il leur parle, » dit frère Masséo, qui commençait à sangloter doucement. Et ils écoutèrent. « Chers petits oiseaux, mes frères, louez et remerciez Dieu qui est votre Père comme le mien, car nous sortons de ses mains. Son amour nous environne et nous meut. Regardez comme il s'est occupé de vous. Il vous a gardé dans l'arche de Noé. Il vous a donné le loisir et le plaisir de voler quand et où vous voulez. Tout l'espace est à vous. Il vous a donné un chaud plumage, d'épais manteaux contre la pluie et la neige. Et vos petits les reçoivent sans que vous deviez filer ni coudre. Et comme ils sont beaux, vos vêtements, beau comme les fleurs et les arcs-en-ciel. Il s'occupe de votre nourriture, que vous trouvez prête sur les arbres, dans les prés, au bord des eaux et des fontaines, et dans les rues. Il vous a donné pour y nicher des fentes dans les rochers, des meules, des peupliers et les tuiles des toits. Il a donné à chacun de vous une chanson et une langue dans laquelle vous appelez vos frères et leur parler, dans laquelle vous pouvez louer le Seigneur et le bénir. Voyez-vous maintenant comme Dieu a soin de vous et vous conserve la vie. C'est pourquoi ne soyez point ingrats et demeurez simples et pauvres, en exemple aux hommes et aux frères mineurs, et ne vous lassez pas de célébrer votre Père d'une voix ardente. Votre chant est votre raison. Chantez, chantez !» Et alors ils se reprirent à siffler, à chanter, chacun selon sa nature. Et ils inclinaient leur petite tête pour signifier que ce sermon leur plaisait beaucoup. Et François, l'oyant et voyant, chanta avec eux, rempli de joie reconnaissante. Là-bas, les frères, à genoux, contemplaient le prodige. Ils virent François donner sa bénédiction aux oiseaux, et soudain tout éclata et jaillit en l'air comme une fontaine haut, très haut dans le ciel, et se dispersa en forme de croix vers les quatre points cardinaux. « Merci Seigneur, merci !» cria François, et accourant à ses frères, il leur dit « Venez, allons prêcher. Si les oiseaux même écoutent, pourquoi les hommes n'écouteraient-ils pas ?» Ils commencèrent à prêcher avec un zèle fougueux. François saluait les fleurs, disait bonjour à un chien, aux bêtes des troupeaux. Il prêcha pour une pauvre famille sur le seuil de la cabane, pour une paysanne qui allait porter au marché un panier d'œufs, et chanta pour un enfant qui jouait dans la boue. Il prêcha en des églises combles, sur des places couvertes de monde. Mais que ce fût pour un homme ou pour cent, toujours aussi bien, avec feu et conviction. Tantôt le sermon était comme un bouquet de violettes, tantôt terrible et sombre quand il traitait de l'enfer. Il était la divine fusée qui bondissait d'un cœur à l'autre, faisait jaillir les étincelles. Les âmes étaient comme aspirées vers lui. C'était comme une harmonie qui traversait la contrée et chacun venait voir et entendre. La foule courait après lui et on allait à sa rencontre en procession, avec des cierges, des bannières, des malades et des éclopés. Les cloches sonnaient dans les campaniles. Les hommes baisaient sa bure, en coupaient les morceaux. Une écuelle ou un autre objet, s'il l'avait touché, devenait une relique, bonne pour le salut et contre toute maladie. L'enthousiasme grandit tant qu'il devait retenir les gens mariés qui voulaient se séparer pour suivre François et Claire. Il disait « Non, non, attendez encore un peu. Avec l'aide de Dieu, je veillerai à ce que vous puissiez nous suivre en esprit sans vous séparer. » Le nombre grandissant des frères lui faisait presque peur. Il répandait miracles et guérisons comme un printemps. Il ne s'occupait plus à présent de cette renommée dont il souffrait naguère. Il savait bien que toute cette gloire n'allait pas à sa personne à lui. « Je suis le violon dont Dieu se sert pour jouer ses mélodies. C'est la musique de Dieu qu'ils viennent entendre. » Cet énorme succès stupéfiait Masséo qui dit à François « Vous n'êtes pourtant pas un bel homme, ni instruit, ni… » « C'est cela précisément, s'écria François joyeux, qui prouve que c'est Dieu qui travaille. Et pour bien le montrer, il fait servir à ses desseins l'homme le plus laid, le plus indigne, le plus grand pécheur. Qui pouvait-il dès lors mieux choisir que moi ? Sans lui, je ne suis qu'un grand nigaud. Louons-le donc et l'aimons, parce qu'il emploie à sa gloire un pécheur misérable. Aimé, tout est là. Tout le monde est capable de porter un cierge à la procession, d'offrir de l'argent. Cela n'est rien. L'essentiel, l'unique chose qui importe, est d'être toujours content de ce que nous recevons de ses mains. Voilà l'amour. L'été se passa à prêcher dans les bourgs et les villes, et quand arriva le temps des vendanges, François dit « Mes petits frères, rentrons au couvent, car ce mois-ci je veux repartir vers les Maures. » Chantant et prêchant, ils s'en retournèrent. Un jour qu'ils devaient passer par une gorge entre des rochers, c'était déjà le soir avec une fine serpe de lune, un homme les attendait à l'entrée, une bure sur le bras. C'était un seigneur bien mis, grande taille, avec une large barbe noire. Il mit un genou en terre, solennellement, au pied du poverello, et en termes choisis, il demanda s'il pouvait rester avec lui, car il n'avait point trouvé la paix dans les livres et voulait vivre désormais dans la pauvreté pour Jésus. « Lève-toi, dit le père. Qui es-tu ? » L'homme se nomma Élie, notaire à Bologne. Ils se regardèrent longuement. Élie avait de grands yeux noirs qui vous perçaient le cœur d'un trait dur et froid, et un sourire dont on ne pouvait dire au juste s'il était moqueur ou simplement joyeux. Un homme qui attirait et écrasait. Ni lui ni François ne sia. « Viens, dit François d'une voix étouffée, comme s'il consentait de force. En même temps, il eut comme un pressentiment anxieux. Il regrettait d'avoir dit « Viens », mais François n'avait qu'une parole. « Viens avec nous, frère Élie », prononça-t-il très vite à deux reprises. Élie l'accompagna. Les deux autres frères n'étaient plus du tout à l'aise. La bonne joie avait fui. Ils ne chantaient plus. Ils se regardaient comme pour se dire « Quel homme a-t-il accueilli là ?» Élie raconta, en langage académique, qu'il avait connu François jadis, au temps où son père était matelassier dans la bonne ville d'Assise, qu'il avait quitté jeune, après quoi, à force d'études personnelles, il était devenu notaire à Bologne, grâce à beaucoup de volonté, d'ordre et d'intelligence. On dormit cette nuit-là dans une grange. Les trois frères s'étendirent dans la paille. Élie s'assit sur une caisse, la tête appuyée au mur. C'était plus propre. À leur réveil, ils le trouvèrent déjà vêtu de sa bure. Ils la portaient avec soin et prudence, comme si elle eût été de soie. Les autres ne regardaient pas où ils mettaient les pieds, sur les pierres, dans la poussière, la boue et les flaques. Que leur importait à eux un vêtement en loques et des pieds souillés, pourvu que l'âme fût propre. Élie disait « Une bure sale ne fait pas encore une âme propre. » Il grattait de la sienne la moindre éclaboussure. Il soignait ses mains, ses grandes mains très belles. Dès le premier jour, il se montra plein d'attention pour François. Le soir, il lui lava les pieds et s'occupa de lui trouver de la paille fraîche. Il contemplait le sommeil du père avec respect et avec son sourire énigmatique. Il prêchait aussi, mais c'était comme s'il lisait un acte notarial. Primo, secondo. Après peu de jours, François comprit à quel homme il avait affaire. Ce frère Élie, une nature double, ambitieux d'une part et pourtant très vertueux. « Tu deviendras un bon frère, lui dit-il, si tu sais déposer ton orgueil. »« C'est pourquoi je suis venu, répondit l'autre en rougissant, et on voyait qu'il contenait sa colère. » François pensa tour à tour. « Celui-là deviendra ou bien un saint ou un malheureux qui ne mourra pas dans l'ordre. » Et, chose étrange, il éprouvait à son égard un profond respect. Pourquoi ? Ce sont là de ces choses qu'on n'explique pas. À frère Ange, il disait, « Pas d'idées noires, petit frère. Nous devons accepter tout le monde. La demande prouve le bon vouloir. Nous devons, pour commencer, nous contenter de cette bonne volonté. Au début, plusieurs nous paraissent membres du diable, qui deviennent ensuite de vrais disciples de l'Évangile. Pour toi-même, comment cela s'est-il passé ? Ange soupira. Alors arrivait la portioncule. Élie semblait être le Seigneur, avec ses trois valets boueux. Il y eut grande joie pour le retour du Père spirituel, mais ce nouveau venu gênait un peu. Il avait des airs de professeur. Ce grand diable de frère Genièvre l'évita tout de suite, et frère Jacques le regarda avec méfiance, comme s'il craignait d'en recevoir des coups. Mais frère Chapeau le trouva à son goût, un monsieur. Dès la semaine suivante, François envoya Élie à Florence pour y aller défendre l'esprit des frères mineurs contre les savants, avocats et théologiens. Ce genre-là convenait à Élie, primo, secondo. Et maintenant, prions, mes enfants. Préparez mon bagage spirituel, car après-demain, je m'en vais en Afrique pour donner une âme blanche aux Maures. Il était comme ivre de l'Esprit Saint. Cette fois, il espérait bien réussir. Il ne cessait pas de chanter. Deux saisons plus tard, François est assis, malade, au soleil, sur le seuil de sa cabane. Le voyage a encore échoué. Il est devenu gravement malade en Espagne. Il y est resté couché tout l'hiver et au printemps, on l'a rapatrié. S'en était-il promis du travail pourtant? Alors, il est allé passer quelques jours en prière sur l'énorme alverne et le voici de retour, le foie malade et un ulcère à l'estomac. Le massif de roses, à côté de sa cabane, exhale un nuage de parfum qui ferait s'agenouiller Salomon. Tout près de lui, les arbres sont pleins d'oiseaux. Dans l'herbe jouent des lapins. Sur le toit marchent de blanches colombes. Elles proviennent d'un couple qu'il a un jour mendié à un garçon qui les portait à la rôtisserie. Et maintenant, elles ont une grande famille. Claire en a reçu aussi, et chaque frère d'un autre ermitage qui vient en visite peut en emporter un couple. Le temps est doux comme un baume et François en jouit comme un enfant. Il regarde tout, admire tout et remercie. De temps en temps, une cigale s'abat sur sa main et tourne jusqu'à ce que François lui dise « Sœur cigale, chante les louanges de notre Seigneur. » Et la cigale alors se met à crisser si fort qu'on se demande comment c'est possible. Un si petit être. Et elle ne s'arrête pas avant que François ait chanté avec elle. « Cela suffit, sœur cigale, » dit-il après un moment. « Je ne peux pas me fatiguer, je suis un pauvre homme bien malade. » La cigale s'envole pour recommencer plus tard le même jeu. Il règne un grand calme à la portioncule. On y prie et travaille. Au loin, dans le bois, deux jeunes frères chantent un psaume. « Comme c'est beau tout de même, songe François, tant de frères réunis, sans autre but que de vivre pour Dieu. » Et levant les yeux au ciel, « Mon Dieu, gardez-les ainsi, gais et innocents comme des enfants. » Et il songeait malgré lui aux menées de quelques savants parmi les frères qui commençaient à retoucher sa règle des pauvres et apporter des amendements afin qu'il puisse avoir des livres et des bibliothèques, s'occuper de théologie et autres sciences. Des savants qui voudraient limiter la liberté d'aller prier, travailler et prêcher, et donner une entorse à la simplicité de leur vie. Jamais, avait crié François, et tout son cœur et toute son âme continueraient de crier, jamais. Il sentait bien que frère Élie était dans tout cela pour quelque chose. Quand on ne reste pas simple, le mal est si tôt venu. Car voyez ce qui s'est passé durant son voyage en Espagne. Frère Pierre, ne s'était-il pas avisé de construire contre la chapelle une maison, parfaitement, une maison de pierre, une manière de palais? Quoi, avec des moulures? Était-ce digne des frères mineurs, cela ? Une honte ! Quand François le vit, il s'emporta. « Démolissez-nous cela » cria-t-il. Et malgré sa maladie, il monta, agile comme un chat, sur le toit, et les tuiles volaient par terre. Et il ne permit de garder la maison que lorsqu'on lui eut promis qu'elle servirait aux pèlerins. Mais non, il ne veut pas songer à ces tristes choses. Il fait beau et Dieu tient sa main étendue sur l'ordre. Il siffle un coup et aussitôt des frères accourent. « Asseyez-vous là, dit-il, tout près de moi. Je me sens bien aujourd'hui pour vous parler un peu du mont Alverne. » Mais il ne le fait que pour chasser ses sombres pensées. Ah, enfin, depuis si longtemps, il le désire. Ils se rapprochèrent sur le gazon et il raconta. « Dieu ne m'a pas encore trouvé digne d'aller chez les maures. Et alors il m'a appelé sur l'Alverne, sur ses sommets de rocs sauvages. Lorsque nous eûmes construit là, sous un beau faillard, une hutte où je pourrais prier bien seul, soudain un bandit sortit du bois. Il avait sur lui plusieurs couteaux et portait une lourde massue. « Je suis le loup de cette montagne, dit-il. J'en suis le maître et le seigneur, et si vous ne décampez pas tout de suite, je vous écrabouille de cette massue. Oust, filez !» Sa massue déjà se levait, mais par la grâce du Saint-Esprit, il tomba de mes lèvres de si bonnes paroles qu'avant que j'eusse fini de parler de la bonté de notre Seigneur, qui était mort aussi pour lui, le brigand était déjà prosterné à mes pieds et demandait de pouvoir devenir petit frère. Alors, avec joie dans le Seigneur, je lui ai donné ma bénédiction et l'ai nommé frère Agneau. Voyant qu'il était si attaché à sa montagne qu'il paraissait en faire partie, je l'en ai constitué le gardien. Et à cette heure, il aide à la construction d'une chapelle de pierre que le Seigneur Orlando y fait bâtir par ses ouvriers. Vous voyez, mes petits, comme le Seigneur est bon, qui change les loups en agneaux. Et si jamais vous avez le bonheur d'aller prier sur ce mont sacré qui s'est fendu lorsque notre Seigneur mourut sur la croix, vous traiterez frère Agneau avec tout le respect et l'affection que mérite un saint homme. Maintenant, remercions ensemble le bon Dieu de tout cela et prions aussi pour frère Agneau, car même le plus saint homme a encore besoin de prière. Frère Léon entonna et ils prièrent une poignée de chapelets pour frère Agneau. C'était frère Lelon qui était préposé à la direction spirituelle de Claire et de ses sœurs. Et chaque fois qu'il revenait de chez elles, il annonçait de leur part qu'elles aimeraient tant que François revint leur apporter lumière et consolation. François se laissa convaincre, mais à contre-cœur. Claire était sainte à ses yeux. La présence de Claire faisait croître et briller son âme. Il y serait allé volontiers chaque jour. Mais elle et ses sœurs le traitaient comme un saint, et cela, il ne pouvait le souffrir. Il aurait voulu rentrer sous terre, lui, un si grand pécheur, un ver d'abjection. Cela le peinait, et elle ne pouvait s'en empêcher. Mais cette fois, il allait le leur désapprendre. Cela commença comme à l'ordinaire, elle baisait sa bure en pleurant. Claire fit apporter de l'eau et lui lava les pieds en signe de soumission. Elle le regardait avec des yeux brillants de vénération. Il ne voulait, ne pouvait le voir, il fermait les yeux. Toutes ses attentions, ses pleurs, ce repas, ses soins, cette admiration, elles auraient chonché de plumes le sol qu'il foulait. Non, il fallait que cela finît. Il alla donc d'abord prier un peu dans la petite église, devant la croix, et il eut une bonne inspiration. Se levant, il demanda à la sacristine une écuelle de cendre. Quand elle revint, il prit l'écuelle, se tourna vers les nonnes agenouillées, qui, silencieuses comme des statues, buvaient ses paroles. Et en guise de sermon, il prit deux fois de suite une poignée de cendres et la répandit sur sa tête, de sorte qu'elles tombèrent sur tout son visage, dans sa barbe, sur ses épaules. Et le reste, il le répandit autour de ses pieds. Et les bras étendus, il se mit à chanter en partant, « Miserere, ayez pitié du pécheur que je suis !» En chantant, les yeux au ciel, il passa devant les sœurs stupéfaites et il sortit. ne revint pas à Saint-Damien et Claire ne se risqua point à l'inviter encore. Mais elle sollicita l'honneur de pouvoir un jour partager son repas à la portion cuve. François refusa. 6 fois, elle fit renouveler sa demande. Et il refusa 6 fois. Léon et les autres trouvaient que c'était grand dommage. Vous l'avez vous-même introduite dans la vie de pauvreté. Toujours enfermée, elle en aurait tant de joie. Et de nouveau, il se laissa convaincre. Un matin, quelques frères l'avaient cherché et François l'attendait dans un petit bois de cyprès. Maintenant qu'il avait consenti, il se sentait heureux lui-même. Il pourrait à son tour la recevoir comme une sainte. Et il s'inclina devant elle, baisa sa bure, prit sa petite main que le travail avait rendue sombre et dure et la conduisit le long des cabanes. Partout, des frères s'inclinaient avec respect, sauf frère Chapeau, qui s'en alla dès qu'il la vit venir. Quand elle eut prié encore une fois avec François dans la chapelle, ils allèrent prendre le repas dans l'hôtellerie. Le festin consistait en fromage, pain et lait servis sur le sol nu. Claire et une sœur et tous les frères étaient assis là, excepté frère Chapeau, qui ne voulait pas être assis à table avec des femmes. Sa place demeura vide. Le lait fut servi dans des écuelles de bois. Et après le bénédicité, François, comme touché par l'âme pure de Claire, se mit soudain à parler de Dieu d'une façon si touchante, si merveilleuse, qu'ils furent envahis tous par l'incendie de l'amour divin. La terre, les sens perdaient leur pouvoir. Leurs âmes brillaient et rayonnaient, et la clarté en pénétra le toit et les murailles. Une vive lueur rouge s'épanouit au-dessus du bosquet de l'église, comme une grande tulipe de feu. Frère Chapeau s'en va. Il y a longtemps que c'était en l'air. Et quand la chose arrive, elle étonne encore. Écoutez le ronchonner contre François et les frères. C'en est assez, j'en suis las à la fin. Je ne peux pas instruire les lépreux à mon gré, mais vos favoris le peuvent. À cela, tout est permis. Moi, je dois me tuer au travail pour eux. Dès la première heure, vous m'en avez voulu, parce que je portais un chapeau. Pourquoi ne faites-vous pas une règle fixe comme le désir Élie et d'autres? Tout le monde saurait au moins ce qu'il doit faire et laisser. Vous n'osez pas. Qu'est-ce maintenant notre règle? La règle, c'est vous. Ce sont vos caprices. J'en ai assez. Je fonderai un ordre nouveau muni d'une règle. Et quoique je n'ai pas d'esprit, elle se fera. Car quiconque n'est pas aussi fou que vous se mettra de mon côté. Et vous ne savez pas vous-même combien j'ai de partisans. Vos amis vous le cachent. Votre ordre s'effrite. Quel dommage que j'ai perdu tant d'années. Adieu. Il enfonça davantage son chapeau sur sa tête et s'en fut. Les frères en étaient décontenancés. Après tout, frère Chapeau était un des premiers frères. François leur dit, « Mes enfants, pas de tristesse. Ce n'est qu'une épreuve. Prions pour cette brebis égarée et pour celle qui pourrait encore se perdre. Car... » Mais il s'arrêta. Il avait, comme un oiseau, le pressentiment que de sombres nuages approchaient. De cet hiver, il passa la plus grande partie dans la grotte du Mont Subasio, quelque part là-haut, au-dessus de la tonnante cascade, à prier pour la conversion des pêcheurs et la délivrance des âmes du purgatoire. Quand la trop grande faim menaçait de l'abattre, il sortait en chancelant, allait mendier dans les villages. Pour n'être pas connu, il tirait son capuchon, changeait sa démarche et sa voix, car dès qu'on le reconnaissait, on le comblait d'aumônes. Il en recevait plus qu'il n'en pouvait porter. Cela ne s'appelle plus mendier. Il n'y a pas de mérite à cela, ni pour lui, ni pour les donateurs. Il voulait recevoir l'aumône comme la reçoit un vrai mendiant. Pensez-vous que notre Seigneur n'était pas plus heureux d'un chanteau de pain donné par pitié que d'une fête comme celle de Cana où on le vénéra? Être pauvre et qu'on vous chasse et qu'on lance le chien après vos choses, voilà qui est profit pour l'âme. Et cet hiver, les oiseaux souffraient grande misère. La moitié de ce qu'il rapportait de sa quête était pour eux. Sur la neige qu'il avait durcie en la tassant de ses pieds, il émiettait le pain. On eût dit qu'il le sentait, les petits frères ailés. Ils arrivaient tout de suite à pleine volée. Et si, d'aventure, quelque âme charitable lui avait donné un peu de miel ou de vin doux, il le portait dans les troncs creux où il savait que nichaient des abeilles. Mais il n'oubliait pas pour autant ses frères humains. Et à des lieues de distance, il allait, à travers la neige épaisse, visiter les petits ermitages ensevelis dans l'hiver. Quelle joie pour leurs habitants! Toute la noire saison en était illuminée. Il restait dans chaque ermitage 2 ou 3 jours, puis reprenait sa route dans la montagne. C'est ainsi qu'un jour, il arriva à Monte Casalte. Le frère portier lui dit en ouvrant la porte, « Les bandits ne vous ont pas attaqué ?»« Je n'ai pas vu de bandits. »« Quoi, je viens de leur fermer la porte au nez, il y a un instant. » Oui, révérend père, 3 bandits qui venaient demander l'aumône et qui, en temps ordinaire, ne savent que voler et dépouiller les gens. Les 4 frères de l'ermitage accoururent, mais avant de les saluer, François criant, « Hélas, ces pauvres brigands, ces pauvres enfants !»« Quoi ? Vous les plaignez ? Ils sont la terreur du pays !»« Hélas, ces pauvres bandits !» gémit-il. Puis il ordonna, « Vite, vite, portez-leur du pain et du vin !» Est-ce là votre charité évangélique? Ne sont-ils pas de la même chair dont notre Seigneur s'est revêtu quand il voulut mourir pour les pécheurs? Vite, vite, courez après eux et demandez-leur pardon à 2 genoux. Je vous le commande au nom de la sainte obéissance. Et invitez-les à boire et à manger chaque fois qu'ils frappent à votre porte et parlez-leur de notre Seigneur. Dites-leur ce que notre Seigneur a fait pour eux. Vite, vite! Et le portier de filet avec du pain et 1 quart de vin de messe, il n'y en avait point d'autre. On a beau être dur comme roc, l'ours le plus mal léché ne résiste pas à cela. Naturellement, ces gaillards ne se laissèrent pas apprivoiser tout d'un coup. À petits coups, plutôt, ils étaient gênés. Tantôt, ils déposaient à la porte quelques fagots, tantôt un faisan. Ils s'attardaient un moment à causer avec le portier, et enfin, un beau jour, ils entrèrent. 3 hommes énormes comme des ours, avec des mains comme des massues, plus timides que des enfants, ils demeuraient assis devant les œufs, le fromage et le pain, le nez dans leur assiette. François les servit et en même temps il leur parla des choses de la foi avec tant de douceur, de candeur et de simplicité qu'ils en sanglotèrent tous les 3. La grâce les toucha. L'un après l'autre, ils tombèrent à genoux et demandèrent à rester. François les embrassa. Au revoir, chers amis, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.